S'il est une ville dans le monde qui suscite fascination, mais aussi convoitise et tension, c'est bien Jérusalem. Ville sainte pour les trois religions monothéistes, Jérusalem représente également un enjeu et un symbole fort sur le plan politique, les deux dimensions étant indissociables. Pour tenter de comprendre les raisons de ces crispations, mais aussi les raisons qui font de Jérusalem un lieu qui attire depuis des siècles visiteurs et pèlerins du monde entier, eh bien, nous allons tenter de parcourir son histoire avec vous, Vincent Lemire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc historien, vous dirigez le Centre de recherche français à Jérusalem et vous êtes l'auteur avec Christophe Gauthier d'une bande dessinée très remarquée qui est parue aux éditions Les Arènes et qui est un véritable défi puisqu'elle s'intitule tout simplement « Histoire de Jérusalem » et qu'à travers cette bande dessinée, eh bien, vous retracez environ 4000 ans d'histoire. Alors je ne peux pas ne pas vous poser la question du choix de ce support BD pour une histoire aussi riche et complexe que Jérusalem. Quel est l'atout de la bande dessinée de ce point de vue-là?
Oui, c'est mon 8e livre sur l'histoire de Jérusalem, mais c'est ma première bande dessinée. Évidemment, ça permet de toucher un public plus large, plus jeune, mais aussi plus âgé. Je me rends compte qu'il y a des gens qui reviennent à la lecture par la bande dessinée, les personnes âgées, le troisième âge, c'est très très important. Des gens peut-être qui se sentiraient un petit peu intimidés par un volume de 500 pages. Donc on touche un public plus large, premièrement. Mais deuxièmement aussi, on peut incarner, on peut concrétiser, on peut rendre visible, y compris pour moi, j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup travaillé, c'est pour ça que ça m'a pris pratiquement 5-6 ans. Je pensais que j'avais tout ce qu'il fallait dans mes livres non illustrés. Non, en fait, les bâtiments, l'architecture, les vêtements, les paysages, la nourriture, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut se documenter. Et moi, j'ai énormément appris en faisant cette bande dessinée. La représentation, ça ajoute des choses.
Est-ce que vous diriez que l'histoire de Jérusalem est une histoire particulièrement complexe ? Ou pas plus que n'importe quelle autre grande ville du monde?
Bon, par principe, pas plus. C'est une ville qui a un passé très très ancien, donc qui a été traversée par l'histoire universelle. Ce qui rend les choses compliquées, c'est qu'en fait, ces différentes séquences sont toutes reliées les unes aux autres, et qu'elles ne cessent de rejouer et de revenir à la surface. On ne peut pas saucissonner l'histoire de Jérusalem. Le chapitre 1 sur l'histoire biblique, il va réémerger aujourd'hui en 2023, l'histoire islamique aussi, l'histoire chrétienne. Le plus compliqué, en fait, c'est ça. C'est dans cette bande dessinée, on a un plan strictement chronologique, mais en même temps, il faut que le lecteur puisse se souvenir qu'à chaque fois, le passé remonte à la surface.
Est-ce que les sources qui proviennent de textes de foi, des évangiles, de la Bible, du Coran, constituent des éléments importants ou bien ça vient parasiter un peu le travail de l'historien?
Non, pour moi ces textes sont, une source comme une autre. Ça viendrait à l'idée à personne de raconter l'histoire d'Athènes à l'époque classique sans lire la mythologie grecque. Donc une source, c'est pas forcément quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est authentique. Ça veut dire que ça documente un état d'esprit, une croyance, une idéologie, une utopie, peu importe. Et ce qui est intéressant avec ces sources religieuses, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, c'est qu'en plus, elles se citent les unes les autres, elles se reprennent, elles se transforment. Il faut montrer que tout ça n'est pas étanche. Alors, ces sources peuvent être instrumentalisées. Le rôle de l'historien, c'est de bien faire la part de l'histoire et de la mémoire, mais aussi de réintégrer les mémoires dans l'histoire, tout simplement parce que les mémoires de Jérusalem, elles vont avoir des incidences très concrètes sur l'histoire de la ville. Ces mémoires, et parfois ces légendes, et ces mythes, et ces croyances, qui vont construire des bâtiments, mettre en mouvement des conquérants, on ne peut pas séparer les deux. Et on ne peut pas séparer, évidemment, l'histoire profane et l'histoire religieuse de la ville.
Aujourd'hui, quand on parle avec des gens qui vivent là-bas, du fait que le religieux et le politique et l'histoire sont intimement liés dans cette ville, ils insistent sur cet aspect. Ça a toujours été vrai, selon vous ?
Oui, parce que cette ville, elle a connu un destin hors du commun, parce que c'est le lieu de la première alliance. C'est le lieu de la légende du quasi-sacrifice du fils d'Abraham, quel que soit le nom qu'on lui donne, Isaac ou Ismaël. Donc, c'est une ville-temple. Les fonctions urbaines sont en grande partie destinées depuis toujours jusqu'à aujourd'hui à accueillir des pèlerins qui restent quelques jours ou qui décident de s'y installer définitivement pour y mourir et éventuellement y être au moment du jugement dernier. Donc toutes ces projections religieuses, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, font partie de l'histoire de la ville et font partie de son quotidien. C'est ça qui rythme les jours de congé, c'est ça qui rythme les jours de prière, y compris dans l'organisation pratique de la ville. Aujourd'hui et hier, ça a une incidence très forte.
know, my darling friends, what is so holy about the Jewish people? What is so holy about us little Yidala? Because we have such a good memory. We have such a good memory. We never forget Yerushalayim. We never forget Yerushalayim. There's a passage in the Psalms.
Alors Vincent Lemire, pour retracer cette histoire de Jérusalem, à laquelle je rappelle que vous consacrez une bande dessinée parue aux éditions Les Arènes, on a fait un choix, celui de retenir des grandes figures, des personnages historiques. J'insiste sur historique, mais pourquoi ne pas avoir choisi des personnages qui justement relèvent de la foi et sont associés de manière évidente aux trois grandes religions?
Oui, il y a des figures légendaires fondatrices, et on pense évidemment à Salomon. Hein. Salomon, Slimane, figure légendaire de l'histoire de Jérusalem, mais de l'histoire universelle tout court. Salomon, c'est le socle de toute l'idéologie monarchique jusqu'à aujourd'hui. La centralité de la figure de Salomon, par exemple, dans la culture monarchique, je pense au sens très large, elle est fondamentale. Donc on aurait pu parler de Salomon. Après, c'est vrai que historiquement, c'est un petit peu délicat d'arriver à le documenter. On peut documenter très bien la mémoire de Salomon. Elle est très longue jusqu'à aujourd'hui, y compris à Jérusalem. Mais son histoire, son historicité, c'est un peu plus compliqué.
De même pour David, son père.
Alors, d'une certaine manière, encore plus. Hein, il y a un site archéologique très célèbre que je pense que les gens qui nous écoutent et qui ont été à Jérusalem connaissent, qu'on appelle la Cité de David, immédiatement au sud de la vieille ville aujourd'hui. Si on enlève toutes les reconstitutions 3D et tout l'appareil et les discours autour, c'est un petit peu compliqué de se représenter le cœur d'un pouvoir tel qu'on se représente le pouvoir du grand roi David. Oui, David et Salomon sont des figures qui sans doute ont pu exister, peut-être pas de la manière dont la Bible les a racontées, mais peu importe, elles ont laissé leurs traces. Hein. Et encore une fois, dans toutes les religions, hein, David, c'est Daoud en islam, et le pseudo-tombeau de David, c'était un lieu saint musulman jusqu'en 1948.
Alors nous, on a choisi de s'arrêter sur Hérode pour évoquer cette cité de Jérusalem. Pourquoi Hérode ?
Hérode, parce que d'abord, il témoigne du poids des empires dans l'histoire de cette ville, et surtout dans l'histoire antique de cette ville. Hérode, il est considéré comme le roi de Judée, et en même temps, on peut se demander si c'est pas plutôt un super gouverneur romain, hein, parce qu'il est nommé roi de Judée par le Sénat romain. Ça raconte bien aussi l'histoire de cette ville qui, jusqu'en 1948 en fait, a toujours été un joyau sur une couronne impériale, païenne, romaine, grecque, perse, ou byzantine, ou islamique, ou ottomane, ou britannique. Et c'est une ville qui a toujours vécu dans un contexte impérial.
Pourquoi est-ce qu'elle représente une telle valeur ?
Parce qu'elle est le lieu de la pierre de fondation, ce qu'on appelle le rocher d'Abraham ou rocher d'Ibrahim en arabe, qui se trouve aujourd'hui sous le dôme du rocher, qui se trouvait très vraisemblablement à l'époque du premier et du second temple sous ce qu'on appelait le Saint des Saints, donc au cœur du sanctuaire. C'est sur ce rocher qu'un certain Ibrahim, aurait tenté de sacrifier son fils Isaac, Ismaël, à la demande du Dieu unique. Cet événement, qui est une légende, hein, cet événement, il est fondateur de l'alliance monothéiste. C'est une mémoire qui est totalement partagée dans les trois monothéismes.
Alors, puisqu'on parle d'Hérode, y compris dans l'Empire romain, cette ville représente quelque chose de précieux et qu'on a envie de posséder ?
Qu'on a envie de posséder, dont on doit aussi canaliser les tribulations, les passions. Hein, ça a été le problème de l'Empire romain jusqu'à la destruction du second temple par Titus en 70. Et c'est aussi une ville qui est ouverte d'une certaine manière à tous les vents. Hérode, de ce point de vue-là, il est assez symptomatique. Hein, le grand roi Hérode qui a reconstruit le second temple, ben, sa mère était arabe, absolument pas juive, et son père était iduméen, ça veut dire que c'était une tribu bédouine du désert. Et il était tout fraîchement converti au judaïsme. Donc il est très peu juif, d'un point de vue généalogique, très peu juif y compris d'un point de vue religieux. Il est plutôt effectivement un super gouverneur romain qui embellit et achève le second temple comme un geste de magnificence destiné à contenter en fait la population juive de Jérusalem. En fait, ça n'y suffira pas hein, parce que les conflits internes à cette population juive vont s'exacerber entre ceux qu'on appelle les zélotes, hein, c'est un petit peu les jusqu'au-boutistes, et puis des gens qui sont plus, un peu plus hellénisés ou romanisés. C'est ce qui va conduire aux révoltes juives et à la destruction du Second Temple. Donc Hérode, oui, il est très très représentatif de cette antiquité, de cette mémoire du Premier Temple et de ce Second Temple, dont le paradoxe est que il a sans doute existé pendant à peine quelques années. Jésus, aux alentours de l'an 0, il a sans doute visité un vaste chantier. Hein, la fameuse scène des marchands du Temple, ça se passe sans doute au milieu des échafaudages. Parce qu'on sait que ce Second Temple, il est terminé dans les années 50 de notre ère et il est détruit en 70. Donc, en fait, il n'aurait existé qu'une vingtaine d'années sans doute.
Alors, vous venez de citer Jésus. On peut terminer ce premier entretien en rappelant que c'est sous le règne d'Hérode que Jésus de Nazareth est crucifié. C'est attesté dans des textes, notamment ceux de Flavius Joseph.
Oui, alors le rabbin prénommé Jésus est crucifié, mais il y avait d'autres rabbins qui étaient crucifiés à cette époque. C'est pour ça que dans cette bande dessinée, on y accorde une double page à cette histoire-là, tout en notant bien qu'évidemment, c'est un événement qui va avoir une mémoire très 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 importante. La crucifixion, on le sait, hein, était un mode de gouvernement et de répression assez classique dans l'Empire romain. Ce qui est certain, c'est que la figure du roi Hérode, totalement documenté dans l'histoire, est relié à celle de ce rabbin particulièrement charismatique qu'on appelait Jésus et qu'on a appelé le Christ ensuite, en endossant sur lui l'idéologie et l'utopie en fait messianique.
Pour retracer avec vous l'histoire de Jérusalem, Vincent Lemire, nous avons choisi de nous appuyer sur des personnages historiques importants qui ont marqué l'histoire de cette cité. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une bande dessinée intitulée « Histoire de Jérusalem » parue aux éditions Les Arènes que vous avez publiée avec Christophe Gauthier. Alors, vous avez tenu à faire apparaître des femmes dans cette histoire et on en trouve, pas énormément, mais on en trouve quand même quelques-unes et certaines qui ont eu un rôle quand même important. Et notamment Eudoxie, en lien avec la période byzantine. Qui est cette femme riche et puissante, Eudoxie ?
Eudoxie, elle est très très importante dans l'histoire byzantine et donc chrétienne de Jérusalem parce que c'est la femme de l'empereur Théodose.
On est à quelle période là ?
On est au début du 5e siècle. Hein, on est un siècle après, on va dire, la conversion de Constantin, hein, 325. La conversion de Constantin, donc c'est très très important. Hein, c'est le moment où l'Empire romain bascule dans le christianisme et ce qui va évidemment accélérer la christianisation du monde méditerranéen. Là, on est au 5e siècle, donc un siècle après, début du 5e siècle. Et cette impératrice Eudoxie, elle est très très intéressante. D'abord parce que son prénom de naissance, c'est Athénaïs.
Ça sonne grec.
Ça sonne grec et ça sonne même païen, hein, pour reprendre un vocabulaire chrétien. Voilà, elle était prénommée d'après la déesse Athéna. Donc c'est une païenne, elle est mariée avec Théodose II. Et donc elle est convertie au christianisme, mais elle garde en même temps voilà, cette culture grecque, à la fois païenne, à la fois juive aussi, des juifs hellénisés. Et puis elle est nouvellement chrétienne et absolument sincèrement chrétienne. C'est une chrétienne, c'est une conversion totalement sincère. En même temps, en 438, elle est à Jérusalem et elle autorise les Juifs à revenir prier sur le mont du Temple. Le Temple est détruit depuis 3 siècles et demi à peu près par les légions romaines de Titus.
Et ne revenait pas ?
Il revenait une fois par an, le 9 du mois de Av, pour commémorer la destruction à la fois du premier Temple et du second Temple, qui tombe selon le calendrier hébraïque le même jour. Donc ils revenaient une fois par an, ils étaient autorisés à prier soit depuis le sommet du Mont des Oliviers, on a des représentations très nombreuses, soit peut-être sur le Mont du Temple, au milieu des ruines, mais une seule fois par an. Et Eudoxie considère que, bon, après tout, si les Juifs veulent prier à l'endroit de leur ancien temple, c'est leur droit. Il y a un nouveau temple, d'une certaine manière, un nouveau sanctuaire qui s'appelle le Saint-Sépulcre, qui évidemment glorifie la nouvelle alliance chrétienne, à quelques dizaines de mètres de là. Il a été fondé par une autre femme, Hélène, la mère de Constantin. Mais voilà, Eudoxie considère que les Juifs peuvent prier. Ça met extrêmement en colère un certain nombre de moines, d'ermites, qui sont en fait la colonne vertébrale du christianisme oriental à ce moment-là, et qui sont eux dans une volonté d'éradication véritablement du judaïsme et des racines juives du christianisme, pour être clair. Donc ces moines vont s'affronter physiquement très très fortement avec ces juifs qui reviennent prier sur le mont du temple. Eudoxie est désavouée par son mari, par l'empereur, qui la répudie, qui promeut le code théodosien, qui à la fois protège d'une certaine manière les synagogues et en même temps réduit le judaïsme à une pratique extrêmement, extrêmement privée, extrêmement discrète et minoritaire. Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qui nous reste d'Eudoxie à Jérusalem?
Alors, énormément de choses. Il nous reste, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui l'école biblique et archéologique française, la basilique Saint-Étienne. Cette école biblique et archéologique française, elle a été reconstruite à la fin du 19e siècle, on le sait, mais en même temps, elle a été construite sur les ruines de l'ancienne basilique Saint-Étienne, basilique consacrée à la mémoire de Saint-Étienne, proto-martyr.
Premier martyr,
peut-être même de l'histoire chrétienne, martyrisé. Sur l'esplanade du temple, d'ailleurs, lui aussi.
Donc elle a fait revenir sa dépouille.
C'est ensuite là qu'elle elle-même est inhumée. On lui doit aussi des murailles, c'est elle qui relève les murailles de la ville. Et puis on lui doit la construction du premier palais épiscopal de Jérusalem. Donc on va dire un logement et des bureaux et une administration à la mesure de l'évêque de Jérusalem. Et c'est donc ça, on est dans les années 440. Et c'est aussi ce qui va permettre, quelques années plus tard, en 451, à l'évêque de Jérusalem de prétendre à la dignité patriarcale. Parce que je pense que ceux qui nous écoutent seront bien étonnés d'apprendre que jusqu'en 451, l'évêque de Jérusalem n'est pas un patriarche. Il ne fait pas partie du patriarcat d'Antioche, d'Alexandrie. La patriarchie n'est pas encore en place. Il faut attendre le milieu du 5e siècle pour que l'évêque de Jérusalem puisse accéder à cette dignité patriarcale. C'est aussi lié à Eudoxie. Et Eudoxie, elle est importante aussi parce qu'elle témoigne de l'importance de ces figures féminines dans la christianisation de Jérusalem et dans l'histoire chrétienne en général. Donc on a parlé d'Hélène, la mère de Constantin. C'est pas Constantin lui-même qui, en 325 ou 330, va à Jérusalem pour essayer de retrouver la croix, de retrouver...
C'est sa mère.
C'est sa mère, c'est très très important, il envoie sa mère. Et puis ce sont des pèlerines, ce sont des princesses, ce sont des aristocrates. C'est par exemple Paula, une aristocrate romaine, qui finance le voyage de Saint Jérôme entièrement, et une bonne partie des institutions fondées par Saint Jérôme, et qui finance en vérité la fameuse Vulgate, la première traduction de la Bible par Saint Jérôme. Peut-être dans une caverne sous la basilique de la Nativité à Bethléem. La traduction de Saint Jérôme, c'est la première traduction en latin. Donc voilà, ces figures féminines, elles émergent et elles sont très structurantes dans la mémoire chrétienne en général. Et puis ce sera ensuite la figure mariale qui va s'imposer. Mais cette figure mariale, elle ne doit pas éclipser toutes ces grandes figures féminines de l'histoire byzantine de Jérusalem.
De quel moment, Vincent Lemire, Jérusalem devient-elle une cité de pèlerinage? Alors vous avez parlé des Juifs qui reviennent régulièrement pour prier face ou à côté des ruines du Temple, mais évidemment après il y a tous les chrétiens qui viennent aussi.
C'est une très très bonne question parce que le pèlerinage est une tradition juive extrêmement bien établie et qui finalement, vous l'avez dit, se poursuit bon an mal an malgré les persécutions. Mais par contre, le pèlerinage s'installe assez tardivement, peut-être pas dans les pratiques, mais en tout cas dans le dogme chrétien. Dans cette bande dessinée, on parle de l'évêque Grégoire de Nice, NY2SE, pas le sud de la France. Grégoire de Nice, qui, comme beaucoup d'évêques de l'époque, ont un regard très très distancié sur le pèlerinage, qui pour eux est une pratique juive, justement. et qui contredit d'une certaine manière
le
message du Christ et la pensée de l'Esprit-Saint. Hein. L'Esprit-Saint souffle où il veut, il est partout dans nos églises. Et qu'est-ce qu'on va gagner à aller voir où était né le petit enfant Jésus, le tombeau En fait, il y a vraiment quelque chose qui choque ces premiers théologiens. Il y a aussi des questions très pratiques. Hein. Ils s'inquiètent du fait que les hommes et les femmes pèlerinent ensemble et que cette promiscuité peut créer des problèmes, y compris d'adultère, etc. Donc il y a des problèmes de sécurité aussi. Donc il y a vraiment une pensée du pèlerinage qui, en fait, ne fait que suivre la pratique, parce qu'en fait, c'est une pratique populaire qui petit à petit s'installe.
Et elle s'impose.
Et elle s'impose aux théologiens qui, justement, au 4e, 5e siècle, sont encore extrêmement rétifs et ne vont finalement que, d'une certaine manière, se convertir au pèlerinage que beaucoup plus tardivement.
C'est pour aussi répondre à cet afflux de pèlerins que s'organisent dans la ville des lieux d'accueil pour les loger, pour les nourrir, éventuellement pour les soigner également.
Exactement, et c'est là qu'on retrouve cette fameuse Eudoxie. Elle et beaucoup d'autres aristocrates, on a besoin de leur argent, on a besoin de leur présence parce qu'il faut loger ces pèlerins. Il faut séparer les hommes et les femmes, hein, par rapport à ce qu'on vient de dire sur cette question de l'adultère. Donc il faut des lieux pour les pèlerins hommes, des lieux pour les pèlerins femmes. Il faut organiser les processions, il faut organiser la nourriture, il faut de l'eau, il faut soigner, il faut enterrer s'ils viennent à mourir. Enfin, c'est toute une économie du pèlerinage qui doit se mettre en place et qui n'est pas prête, en fait, dans les toutes premières décennies de l'histoire chrétienne de Jérusalem. Et ces femmes, ces aristocrates, vont véritablement
financer et favoriser cette installation.
Voilà, exactement. Exactement. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on va retrouver au XIXe siècle, d'une certaine manière, au moment de la réinvention des pèlerinages chrétiens.
Puisque vous parlez de l'eau, c'est un problème à Jérusalem ?
Alors, c'est un problème depuis toujours et jusqu'aux années 1960. Pourquoi ? Parce que Jérusalem est construite au sommet d'une ligne de crête. Et jusqu'à l'invention de la pompe à eau, on ne sait pas transporter de l'eau autrement que d'un point haut à un point bas. Donc pour une ville qui est construite au sommet d'une montagne et d'une ligne de crête, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. On peut dire que cette ville n'avait pas vocation à devenir la métropole religieuse qu'elle est devenue aujourd'hui et qu'elle était même, d'une certaine manière, à l'époque du Second Temple. À l'époque du Second Temple, on a quand même pratiquement 100 000 habitants à Jérusalem, 80 000 habitants en tout cas. C'est beaucoup trop pour la toute petite source du Guillaume qui est située entre la vieille ville et le Mont des Oliviers. Et donc ça a supposé des investissements très très importants, à l'époque romaine déjà. Un certain Ponce Pilate, par exemple, a pris de l'argent dans le trésor du temple pour financer un aqueduc qui allait qui reliait une source située du côté de Bethléem jusqu'à Jérusalem. Et ça a été d'ailleurs une des causes d'une des révoltes juives. Cette question hydraulique, elle revient en permanence. Toutes les souverainetés qui s'emparent de Jérusalem cherchent à étancher la soif de Jérusalem, cherchent à apporter à la population de l'eau potable, d'autant plus qu'on sait que l'eau, elle est aussi importante dans la religion juive pour les bains de purification, les fameux mikvot, dans la religion chrétienne, dans la religion islamique, l'ablution. Donc, évidemment, amener de l'eau potable, de l'eau propre à Jérusalem, ça a une double dimension à la fois urbaine et symbolique et religieuse.
À demain pour poursuivre.
Merci.
Vincent Lemire, on parcourt avec vous l'histoire très riche, assez complexe quand même, hein, de Jérusalem. Il y a eu énormément d'invasions, de combats, de périodes qui ont jalonné l'histoire de cette cité. Alors on essaie de suivre de manière à peu près chronologique quand même l'histoire de Jérusalem en s'appuyant sur de grands personnages. On a parlé de Salomon, on a parlé de Hérode, on a parlé des femmes, notamment Eudoxie et puis Hélène. L'islam aussi s'est donc très tôt intéressé à Jérusalem. Rappelez-nous encore en quelques mots, même si on l'a déjà fait, le fondement de cet intérêt.
Effectivement, la conquête islamique de Jérusalem, c'est quelque part entre 635 et 638. Hein, donc ça suit immédiatement la prophétie de Mahomet. Évidemment, Jérusalem ne peut pas échapper à l'islamisation de la région parce que c'est le lieu fondateur de l'alliance monothéiste. C'est là que Ibrahim, en arabe, Abraham, a pratiquement sacrifié son fils Ismaël, pour les musulmans, Isaac, dans la tradition judéo-chrétienne, en signe de confiance totale envers le dieu monothéiste. Et puis un petit peu plus tard, début du 9e siècle, va aussi se mettre en place la tradition du voyage nocturne vers la mosquée Al-Aqsa, hein, le voyage nocturne du prophète Mahomet, qui est très important. C'est le voyage vers Jérusalem, où Mahomet en fait rencontre tous les prophètes qui l'ont précédé, y compris Issa, Jésus en arabe, Samuel, Samuil, Daoud, les prophètes et les rois, qui lui transmettent d'une certaine manière la chaîne des prophéties, et qui lui reconnaissent ce statut de dernier des prophètes, hein, qui vient couronner en fait cette chaîne des prophéties.
Alors conquérir Jérusalem pour les musulmans, c'est une histoire géopolitique ou une histoire religieuse ou les deux à la fois ?
Jérusalem n'est pas un objectif géopolitique, hein, y compris pour les armées britanniques en 1917, enfin, y compris pour les croisés, la question c'est beaucoup plus de tenir la côte et le fossé jordanien, c'est beaucoup plus important que de tenir Jérusalem. Donc non, c'est vraiment un objectif symbolique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sait pas si cette ville est tombée en 635, 636, 637 ou 638. Donc c'est pour dire que c'était pas si important que ça. Il y a des témoignages assez hallucinants, hein, de l'évêque de Jérusalem qui, pendant le sermon, un sermon de Noël, dit qu'il y a des Arabes qui campent juste à côté et qui vont prendre la ville, mais ça dure. Voilà, on voit bien que la conquête de la ville, sur le plan stratégique, elle n'est pas si importante que ça. Non, c'est vraiment une conquête symbolique.
Qui sont les musulmans de cette époque-là qui s'apprêtent donc à conquérir la ville ?
Alors, beaucoup sont des juifs convertis ou en voie de conversion. Il y a un récit extrêmement intéressant qu'on met en scène dans cette bande dessinée, qui est un récit sans doute en partie légendaire, mais extrêmement récurrent et donc, de ce point de vue-là, très signifiant. C'est un dialogue entre le calife Omar. Alors, Omar est très important, hein, c'est le plus proche compagnon du prophète, qui sans doute n'a jamais été à Jérusalem, mais Alexandre le Grand, on a toujours raconté qu'il y avait été, a priori il n'y a pas été, Bonaparte également. On fait toujours passer les grands conquérants et ces grandes figures légendaires par Jérusalem, comme s'ils avaient besoin de cette onction pour participer de cette légende. Et Omar, aujourd'hui, vous avez une mosquée, vous avez une rue, vous avez plein de toponymes dans la vieille ville de Jérusalem qui renvoient à cette figure de Omar. Peu importe qu'il y ait été ou que c'était un de ses lieutenants, en tout cas, il a mis en place un édit de tolérance, hein, qu'on appelle l'édit de Omar, hein, qui permet aux Juifs de revenir habiter et prier dans Jérusalem, qui permet aux chrétiens d'y rester. C'est extrêmement, extrêmement important. C'est véritablement le début de la période islamique qui permet aux Juifs de revenir prier dans cette ville. Et puis, il y a ce dialogue assez étrange entre donc le calife Omar, calife ça veut dire le successeur, hein, successeur de Mahomet, entre le calife Omar et un rabbin yéménite plus ou moins converti au judaïsme, Abou Isaac. Il y a toujours un rabbin, hein, dans ces récits fondateurs, hein. Hélène, la mère de Constantin, quand elle cherche la croix, il y a un rabbin qui passe par là et c'est le rabbin qui lui indique le lieu. Le rabbin, c'est la mémoire en fait. La figure du rabbin, c'est la mémoire, c'est la tradition, c'est celui qui sait. Et là, Abou Isaac, donc ce rabbin yéménite, indique à Omar l'emplacement du rocher d'Abraham, Ibrahim, en lui disant c'est là que Abraham a failli sacrifier son fils. Et donc Omar demande à Abou Isaac où faut-il faire la maison de prière, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée. Et Omar lui dit on n'a qu'à la faire précisément au-dessus de ce rocher, comme ça la prière vers Moïse et vers Abraham rejoindra la prière islamique, la prière vers Mahomet. Il y aura une espèce de convergence de ces deux traditions. Et Omar lui dit non, Abou Isaac, tu es encore trop proche du judaïsme, on va faire cette mosquée au sud, ce qu'elle est aujourd'hui, la mosquée Al-Aqsa. On va donc prier vers le sud, hein, vers la Mecque et Médine, ce qui sont les prescriptions de Mahomet. Hein. On sait que dans les premiers temps de l'islam, on priait vers Jérusalem, mais ensuite on doit prier vers le sud. Et donc on doit séparer, d'une certaine manière, la tradition juive de la nouvelle tradition islamique. Donc on voit bien là encore que Jérusalem, et singulièrement ce sanctuaire, c'est un lieu fondateur pour l'islam, en fait, parce que c'est le lieu où l'islam va se séparer de la tradition juive. Dans l'esprit de ces premiers musulmans, ils ne font que restaurer le temple d'Abraham. Ceux qui ont laissé cette esplanade en ruine, et volontairement en ruine, et remplie de détritus, ce sont les chrétiens, hein, parce que les chrétiens voulaient être fidèles à la prophétie de Jésus, il ne restera pas pierre sur pierre, mon royaume n'est pas de ce monde, et donc il fallait au contraire que l'ancienne esplanade du temple soit un champ de ruines. Ça, c'est l'époque byzantine. On peut tout à fait imaginer ces premiers musulmans qui, encore une fois, sont pétris de culture juive, qui sont scandalisés, en fait, de découvrir que l'esplanade du temple est un champ de ruines et qu'il faut restaurer le temple d'Abraham. Alors, le restaurer, évidemment, avec une nouvelle prophétie qui est la prophétie islamique. Et à la fin de ce dialogue, dans la BD, dans cette bande dessinée, on raconte que Abou Isaac dit à Omar tu es le Farouk. Farouk, c'est le sauveur. D'une certaine manière, c'est encore une figure messianique. Tu avais été annoncé il y a 500 ans au moment de la destruction du temple et tu viens restaurer l'ancien temple. Voilà, dans le monde islamique, il est évident que le Dôme du Rocher aujourd'hui, qui est, il faut le rappeler, le plus ancien monument islamique conservé au monde, c'est le temple restauré.
Après, les chrétiens vont entreprendre de reconquérir les lieux qui sont tombés aux mains des musulmans, même si au début, la cohabitation se passe plutôt bien.
La cohabitation se passe en fait très bien jusqu'au milieu du XIe siècle, en fait, jusqu'au Seljoukide. C'est vraiment une période assez courte où les lieux saints chrétiens vont être abîmés, certains vont être ruinés, même s'ils vont être reconstruits. Et c'est en fait à la fin du XIe siècle qu'on a ce fameux appel à la croisade de Urbain II, qui demande aux chrétiens d'Occident d'aller reconquérir les lieux saints chrétiens, notamment la ville sainte et notamment le Saint-Sépulcre. Et c'est encore un nouveau chapitre qui s'ouvre, un deuxième chapitre de l'histoire chrétienne de Jérusalem. Ce qui est assez fascinant, on vient de parler du Dôme du Rocher, c'est que ce Dôme du Rocher, il est demeuré totalement intact pendant la période croisée. Les croisés ne l'ont pas détruit et plus que ça, les croisés ne l'ont pas désislamisé d'une certaine manière. Il y a à l'intérieur du tambour, sous le dôme précisément, à l'intérieur du Dôme du Rocher, il y a une inscription proto-coranique qui est une adresse directe aux chrétiens et une critique des chrétiens, une critique de la Trinité. Ne dites pas trois, dites un, il n'y a qu'un seul Dieu. Issa était le fils de Marie, c'était un grand prophète, mais il n'était pas le fils de Dieu, il n'était pas l'incarnation de Dieu. Donc il y a une inscription proto-coranique au sens où elle précède la fixation du texte du Coran, parce que cette inscription elle date d'à peu près 690 et le Coran c'est 730. Donc c'est une inscription très importante dans la mémoire islamique, qui est une adresse aux chrétiens, qui est une critique de la Trinité chrétienne, qui est une réaffirmation du dogme monothéiste. Et ce qui est incroyable, c'est que pendant les 90 ans de présence croisée chrétienne à Jérusalem, où le Dôme du Rocher s'appelait désormais le Templum Domini, le Temple du Seigneur, cette inscription proto-coranique en arabe, qu'évidemment la plupart des croisés pouvaient lire,
n'a pas été détruite, ni recouverte.
Il y a beaucoup de voyageurs à l'époque, y compris des voyageurs musulmans, qui continuaient de pèleriner vers Jérusalem pendant l'époque croisée, qui disent qu'on leur montre beaucoup d'icônes de Marie et de Jésus à l'intérieur du Dôme du Rocher, mais cette inscription proto-coranique, elle est toujours là.
Et sinon, il y a eu beaucoup de destructions pendant les croisades.
Alors, il y a surtout eu beaucoup de massacres. Dans cette bande dessinée, on raconte sur une double page les conditions de la conquête, qui sont en tout point différentes des conditions de la conquête islamique de 635-638. Pourquoi ? Parce que la conquête croisée de 1099, c'est vraiment un rite de purification. Et donc, on ne massacre pas seulement pour des raisons stratégiques. On massacre parce qu'il faut purifier la ville, non seulement des musulmans, mais aussi des juifs, on massacre tous les juifs, mais aussi des chrétiens schismatiques, c'est-à-dire, on va dire, des chrétiens orientaux. Et donc, il y a véritablement, alors c'est peut-être 15 000, 20 000, 30 000 morts en quelques jours par le fil de l'épée, il faut imaginer ce que c'est.
Un bain de sang, d'ailleurs, c'est représenté de cette façon dans la BD.
Et d'ailleurs, les chroniqueurs chrétiens ne s'en cachent pas. Hein, c'est, pour eux, c'est vraiment un événement qu'il faut valoriser, qu'il faut raconter comme tel. Ça va poser d'ailleurs des problèmes à cette ville croisée et au roi du royaume latin de Jérusalem, parce que la ville est complètement vidée de sa population, de sa substance, de son dynamisme économique. Et il faut petit à petit faire revenir d'abord des chrétiens orientaux depuis la Jordanie, qu'on va essayer de latiniser tant bien que mal, puis petit à petit faire revenir y compris quelques juifs et quelques musulmans pour faire marcher le commerce.
Vincent Lemire, nous en étions restés à la présence musulmane à Jérusalem au XIe siècle et aux croisades notamment. Puis on fait un saut dans le temps et on en arrive à la période ottomane. Comment se fait la transition ? Comment est-ce que les choses se passent ?
La période ottomane, elle est très longue, hein, puisque les Ottomans sont souverains à Jérusalem de 1516 à 1917, donc 4 siècles exactement. Et ils arrivent pratiquement à l'époque de nos grands-parents, quoi. Et ils suivent immédiatement la période mamelouk, à partir des années 1360. Les mamelouks et les Ottomans ont beaucoup de choses en commun, hein, en fait. Ce sont des Turcs, hein, on pourrait dire, c'est l'empire islamique turc qui dure pratiquement du milieu du XIVe siècle jusqu'au début du XXe siècle.
Si on doit retenir une figure de cette période ottomane, qui est-ce qu'on peut citer et pour quelle raison ?
Alors, la figure dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est celle de Yusuf Ziya al-Khalidi, Yusuf al-Khalidi ou Joseph Khalidi selon les sources françaises. Il est le premier député de Jérusalem en 1876. Il est le premier maire de Jérusalem dans les années 1860. C'est un personnage extraordinaire. Il parle et il écrit 7 langues. Le turc ottoman, évidemment, l'arabe, mais aussi l'hébreu, mais aussi le kurde, mais aussi l'anglais, mais aussi le français, l'allemand. Enfin, c'est une des grandes figures de l'histoire de la ville. Il fait partie des plus grandes familles, hein, grande famille aristocratique ottomane, hein. On parle toujours des Husseini, mais les Khalidi sont très très importants aussi. Ils ont donné d'ailleurs des grands historiens. Donc Joseph Khalidi, il est important parce qu'il incarne cette période ottomane qui est une période de relativement bonne coexistence entre les communautés religieuses. C'est l'idéologie impériale ottomane qui veut ça, hein. Les communautés juives, musulmanes et chrétiennes vivent en bonne entente à Istanbul, à Izmir, à Beyrouth, à Alexandrie et à Jérusalem. Jérusalem ne fait, de ce point de vue-là, pas exception. Mais Joseph Khalidi, il nous permet aussi de parler d'une institution qui est très largement méconnue dans l'histoire de Jérusalem, qui est la municipalité mixte ottomane. Dans les années 1860, les notables de Jérusalem, musulmans, juifs et chrétiens, s'organisent entre eux pour fonder une nouvelle institution, une municipalité mixte par définition, qui va leur permettre toutes les semaines de se réunir et de régler les problèmes quotidiens des habitants. Voilà, les ordures, le choléra, l'eau potable, tout ce qu'une municipalité fait ordinairement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la toute première municipalité de l'Empire ottoman. Et ça aussi, c'est un signe, pour moi, historien, très important. Si cette ville avait toujours été un lieu d'affrontement et de conflit entre les communautés, ce n'est pas dans cette ville qu'aurait été créée la première municipalité mixte de l'Empire.
Est-ce qu'il y a des citoyens de seconde zone à ce moment-là ?
Alors, il y a ce fameux statut des dhimmi, hein, les communautés non musulmanes, qui sont à la fois protégées, hein, la dhimmitude, c'est à la fois un statut de protection, et en même temps, qui sont tenues à l'écart de certaines professions, par exemple des professions militaires ou des professions juridiques. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, il faut rentrer un petit peu dans les détails. Les juifs et les chrétiens ne peuvent pas être juges, par exemple, parce que les tribunaux sont des tribunaux religieux dans lesquels on juge en droit islamique et donc par définition un rabbin ou un prélat chrétien, catholique ou oriental ne peut pas y siéger. Pourtant, les populations juives et chrétiennes de Jérusalem et de tout l'Empire viennent plaider leur cause devant le tribunal islamique. On a des cas, y compris de deux commerçants juifs de Jérusalem qui sont en conflit pour une histoire de dette impayée. Mais ils ne vont pas devant le tribunal rabbinique parce que peut-être que le président du tribunal rabbinique est peut-être le cousin d'un des deux ou Ils vont devant le tribunal islamique, qui est à la fois une cour de première instance, qui fait du civil, du pénal, du commercial, et une cour d'appel. C'est un tribunal très prestigieux. Ils vont devant ce tribunal, ce qui nous prouve qu'on a une institution juridique très très importante. Et dans cette bande dessinée, on va mettre en scène le cadi. Le cadi, c'est le président du tribunal. C'est une figure très importante dans l'histoire ottomane de Jérusalem. Il est tellement important qu'il change tous les 3-4 ans. Le président du tribunal ne peut pas rester en poste trop longtemps. C'est un peu comme aujourd'hui. Un grand magistrat à Nice ou à Marseille ne reste pas très très longtemps parce qu'il doit rester indépendant le plus possible. Et toutes les affaires arrivent jusqu'au président du tribunal, depuis un trouble de voisinage jusqu'à un divorce, jusqu'à des violences intradomestiques, jusqu'à des conflits beaucoup plus importants.
Pour des membres de toutes les communautés.
Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. C'est des archives très très bien conservées. Donc on a les registres de ce tribunal à peu près sans lacune des années 1530 jusqu'à aujourd'hui. Et on se rend compte que toutes les communautés de Jérusalem viennent plaider leur cause, encore une fois, domestique ou intercommunautaire, devant ce tribunal.
On est au 19e siècle, là, déjà. La configuration de la ville, qu'est-ce que c'est? Quelle physionomie elle a?
C'est à peu près 15 000 habitants, donc c'est vraiment une toute petite ville de l'Empire ottoman. Les plus grandes villes sont plutôt des villes portuaires, les villes littorales. C'est une ville, donc si on est dans les années, oui, on est dans les années 1860, on est déjà à 20-30 000 habitants, quand Joseph Khalidi devient maire de Jérusalem. C'est une ville qui est composé d'à peu près 40% de juifs. Les communautés juives à l'époque ottomane sont très très importantes. Et puis à peu près autant de musulmans et puis 20% à peu près de chrétiens. Donc on a voilà une sorte d'équilibre qui s'est fait entre ces différentes communautés. Et puis on a aussi des liens qui sont tissés à l'intérieur de ces communautés qui ne passent pas seulement par le religieux strictement. Ce sont des communautés arabophones et turcophones. Et qu'on aille à la mosquée le vendredi, à la synagogue le samedi ou à l'église le dimanche, on a aussi des intérêts en commun, des intérêts commerciaux. Voilà, donc c'est très intéressant de raconter l'histoire de cette ville ottomane, qui est pour le coup assez peu souvent racontée. Pourquoi ? Parce qu'on raconte beaucoup l'histoire de Jérusalem justement au moment des grandes conquêtes ou des grands massacres ou des grands affrontements, un petit peu comme encore aujourd'hui, on parle de Jérusalem quand il y a un attentat. Et quand il ne se passe pas grand-chose, on n'en parle pas. Mais quand il ne se passe pas grand-chose, c'est justement que les choses se déroulent plutôt pas trop mal.
La vieille ville, la cité et les remparts datent de quelle période ?
Alors, les murailles que l'on admire aujourd'hui, elles datent du milieu du XVIe siècle, des années 1540. Elles ont été construites par Soliman le Magnifique, ce grand sultan ottoman, celui qui échangeait très très régulièrement avec un certain François Ier, c'est vraiment la même époque. C'est un chantier titanesque, les murailles solimaniennes. Ce qui est extrêmement étonnant, c'est que c'est un chantier qui est mené à bien en 4 ans. Il y a quand même à peu près 4 km de murailles à reconstruire. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que ce ne sont sans doute pas des murailles qui sont destinées véritablement à défendre la ville contre des conquérants. Et même quand on les observe aujourd'hui, elles sont assez basses.
Alors à quoi elles servent ?
Assez étroites. Elles servent à couronner Jérusalem, à affirmer l'importance symbolique, l'importance religieuse de cette ville. Et une ville sainte doit être entourée de murailles. Pourquoi ? Parce qu'une ville sainte, c'est un sanctuaire. Une ville sainte, ça conserve des sanctuaires, ça abrite des sanctuaires, mais la ville elle-même est un sanctuaire. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit d'y entrer à cheval, on n'a pas le droit. Il y a un certain nombre de règles, que ce soit à l'époque.
Il y a des codes à respecter.
Et pour respecter ces codes, il faut bien savoir quand est-ce qu'on est en dehors de la ville et quand est-ce qu'on est dans la ville. Donc, en tant que ville sanctuaire, elle doit être entourée de murailles avec des portes. Ces portes sont ouvertes ou fermées. Comme n'importe quel sanctuaire, elle se définit par une limite, et en l'occurrence par une muraille.
Sachant que la ville d'origine, celle du temps de Jésus, elle ne se situe pas dans cette vieille ville actuelle entourée de remparts.
Oui, la ville antique, elle est un peu plus au sud. Hein. Si vous êtes sur le mont des Oliviers et que vous regardez la ville actuelle de Jérusalem, vous avez le dôme du rocher devant vous, la mosquée Al-Aqsa, ben il faut imaginer que la ville antique, elle est sur votre gauche, on va dire, donc du côté sud, sur les pentes d'un ancien faubourg qui s'appelle Silouane, à peu près là où ont lieu les fouilles archéologiques actuelles qu'on appelle la cité de David. Donc cette ville, à l'époque antique, elle est plutôt au sud de la ville actuelle, et les pèlerins qui allaient au temple, hein, effectivement, on disait on monte au temple, et monter au temple, c'était pas seulement symbolique, hein, c'était tout à fait concret, parce qu'il fallait passer d'à peu près 550-600 mètres d'altitude jusqu'à 750 mètres d'altitude au niveau de l'esplanade des mosquées, donc il fallait quand même grimper pratiquement 150 ou 200 mètres de dénivelé. Voilà, c'est un peu comme une acropole, hein, l'esplanade du temple, qui est plutôt aujourd'hui légèrement en contrebas de la vieille ville. Il faut imaginer qu'à l'époque antique, il faut plutôt l'imaginer comme une acropole, comme dans les villes grecques aujourd'hui.
Alors, cette période ottomane, Vincent Lemire, elle laisse des traces très visibles ?
La ville de Jérusalem qu'on a sous les yeux, c'est très largement une ville mamelouke et ottomane. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études d'architecture. La marque mamelouke et ottomane, on la retrouve notamment à travers la bichromie. Hein, ces fameux grands bâtiments bichromes en pierre blanche et rouge, ou en pierre blanche et noire plus rarement. Ça, c'est vraiment une marque à la fois mamelouke et ottomane. On a des grandes institutions qui sont fondées non seulement par les sultans califes, mais aussi par les femmes des sultans califes, des soupes populaires, des hospices, des lieux d'accueil pour les pèlerins. 4 siècles de présence ottomane sans guerre et sans conquête, ça laisse des traces très très profondes. Oui, la ville que les pèlerins viennent visiter aujourd'hui en 2023, je parle de la vieille ville, c'est une ville mamelouke et ottomane très largement, avec quelques bâtiments croisés, mais assez peu, hein, l'église Sainte-Anne par exemple, voilà quelques autres, mais principalement c'est effectivement une architecture mamelouke et ottomane.
Pour conclure nos entretiens, Vincent Lemire, nous en arrivons évidemment à la période contemporaine. Et là, vous nous proposez de la parcourir à travers une figure, alors peut-être assez peu connue du grand public. C'est quelqu'un qui a été le maire de la ville à la fin des années 60 et qui porte le nom de Teddy Kollek. Qui est ce monsieur ?
Alors oui, il était maire de la ville des années 1960 aux années 1990, mais c'est une figure hyper connue à Jérusalem. Le zoo s'appelle Teddy Kollek, il y a des parcs Teddy Kollek, le moindre banc. Enfin, donc c'est, je sais pas, c'est comme si vous disiez Jacques Chirac à Paris ou Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux. Hein, c'est vraiment une figure, ou Raymond Barre à Lyon, quoi. Ça fait partie de...
Très marquante.
Voilà, très très marquante. Et ça dit aussi des choses de ce qu'on a essayé de faire dans cette histoire de Jérusalem en bande dessinée. C'est-à-dire que bien sûr que c'est une histoire des grandes religions, une histoire des grandes civilisations, mais c'est une histoire de Jérusalem. De cette ville et de ses habitants et de ses citadins. Et donc, le maire, c'est quelqu'un d'important dans une ville. Teddy Kollek, effectivement, alors il est d'origine autrichienne, donc il est assez représentatif, hein, de cette immigration juive ashkénaze, hein, d'Europe centrale. C'est quelqu'un d'extrêmement énergique qui devient maire en 1965, donc 2 ans, en fait, avant la guerre des Six Jours, hein, avant la reconquête de Jérusalem-Est par Israël. Quand il devient maire en 1965, Jérusalem est coupée en deux. Jérusalem-Ouest est sous souveraineté israélienne, et Israël en a fait sa capitale en 1950. Et Jérusalem-Est, y compris la vieille ville, est sous souveraineté jordanienne ou transjordanienne, le royaume de Jordanie actuel, le royaume hachémite, qui n'a pas fait le même choix et qui a décidé de caler sa capitale à Amman, qui est toujours la capitale de la Jordanie aujourd'hui, et ce qui a d'une certaine manière contribué à provincialiser Jérusalem-Est et notamment la vieille ville au cours des années 1950. Teddy Kollek, quand il devient maire en 1965, son projet, c'est la réunification. Et dans la bande dessinée, on met en scène un des discours de campagne de Teddy Kollek au moment de la campagne électorale de 1965. Il dit 2 choses. Il dit, 1, je ne veux pas qu'on déménage les bâtiments de la municipalité qui se trouvaient vraiment au centre de la ville et donc juste à côté de la ligne de démarcation. Et c'est vrai que c'était mal pratique et il y avait des projets pour déménager cette municipalité plus à l'ouest, près des bâtiments du gouvernement, près de la Knesset. Il dit non, la municipalité doit rester au centre de la ville et la ville doit être à terme réunifiée, ce qu'elle sera deux ans après. Et puis Teddy Kollek, après 1967, après la guerre des six jours, après la conquête de Jérusalem-Est par Israël, il va tenter, de façon assez sincère dans les premiers mois, de véritablement réunifier la ville, pas seulement par des moyens militaires, mais aussi par des moyens municipaux.
Parce que quand vous dites qu'elle l'a été deux ans plus tard, elle l'a été par la force.
Elle l'a été par la force et par la guerre. Et voilà, ce n'était pas non plus d'ailleurs complètement prévu. En tout cas, Teddy Kollek, il va chercher un moment à réunifier les deux municipalités.
Il
va,
et à pacifier.
À pacifier. Il va, en fait, un certain nombre des fonctionnaires municipaux jordaniens de Jérusalem-Est vont être embauchés à Jérusalem-Ouest. Mais bon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des forces contraires aussi à l'ouest et à l'est qui vont conduire à la situation qu'on connaît aujourd'hui.
La ville en elle-même s'étend très largement désormais au-delà de la vieille ville, de la cité, côté ouest notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle ville, de cette ville moderne ?
Alors, la ville de Jérusalem, aujourd'hui, c'est pratiquement 1 million d'habitants. Hein, donc, vous voyez, par rapport aux 10 000 habitants qu'on avait au début du 19e siècle, c'est fois 100, quoi. Hein. C'est véritablement exponentiel. Ce qui est très contre-intuitif, peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est que aujourd'hui, dans les frontières de la municipalité israélienne de Jérusalem, donc qui n'ont pas bougé depuis 1967, aujourd'hui vous avez 40% de Palestiniens, alors que ces Palestiniens ne représentaient que 25% au moment de la guerre des six jours. Donc ce qui est très étonnant, c'est que non seulement les Palestiniens de Jérusalem-Est résistent sur le plan démographique, non seulement ils sont plus nombreux, évidemment en chiffre absolu, mais ils sont y compris plus nombreux en chiffre relatif. Ils sont pratiquement la moitié de la population de la ville aujourd'hui. Ils s'accrochent en fait effectivement à cette ville de Jérusalem-Est, à la vieille ville aujourd'hui. La vieille ville de Jérusalem, aujourd'hui en 2023, elle est habitée par 90% de gens qui ne sont ni juifs ni israéliens. À peine 10% de la population de la vieille ville de Jérusalem sont des juifs israéliens. C'est extrêmement paradoxal pour une capitale revendiquée.
Les autres sont ?
Alors les autres sont palestiniens au sens identitaire. Donc ils sont généralement ils sont arabes, arabophones, pour la plupart musulmans. Certains sont chrétiens. Ils ne sont pas de nationalité israélienne parce qu'au moment de l'annexion de Jérusalem-Est, Israël a annexé le territoire mais pas les habitants.
Hein, donc, vous avez quelle est leur nationalité aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux ?
Ils n'en ont pas, il y a beaucoup qui n'en ont pas, ils sont au sens strict apatrides, certains sont jordaniens, en tout cas ils ont un passeport jordanien, donc ils n'ont pas de nationalité jordanienne, mais ils ont un passeport qui leur permet éventuellement de prendre l'avion, un passeport jordanien. Voilà, il y a aussi des missionnaires, etc., mais des missionnaires chrétiens, c'est pas énormément. Aujourd'hui, on a moins de 2% de la population de Jérusalem qui est chrétienne, mais en même temps, 2% sur 1 million, c'est pratiquement 20 000. Et donc c'est pratiquement autant en fait qu'au début du XXe siècle. Mais au début du XXe siècle, ça représentait 20 à 30% de la population et aujourd'hui c'est seulement 2%.
Shalom aleichem, malachei ha-shalom, malachei ha-elyon.
Vincent Lemire, pourquoi le statut de Jérusalem comme capitale d'Israël éventuelle pose-t-il un problème ?
Alors, ça pose un problème à la fois juridique, on pourrait dire, juridique, diplomatique, et aussi un problème historique. Le problème juridique, diplomatique, il est assez simple. C'est que au moment du plan de partage entre un État juif et un État arabe de Palestine, il avait été décidé que Jérusalem, et un peu plus large, hein, Jérusalem et Bethléem, seraient ce qu'on appelait un corpus separatum, c'est-à-dire une entité séparée, à vocation universelle, justement, et qui ne devait être rattachée ni à l'État juif, ni à l'État arabe de Palestine. Ce plan a volé en éclats, mais en même temps, sur le plan diplomatico-juridique, il reste valable. En 1950, l'État d'Israël décide que Jérusalem-Ouest est sa capitale. Et d'une certaine manière, c'est son droit. La France peut décider demain que sa capitale, c'est Strasbourg. On a le droit de caler sa capitale, y compris aux extrémités de son territoire. Et la France pourrait se dire il faut qu'on soit très proche de l'Europe, et donc c'est plus Paris, c'est Strasbourg. Mais par contre, il faut que ce soit à l'intérieur de ses frontières. Donc la décision de 1950, elle ne pose pas véritablement de grands problèmes. Il y a même jusqu'à 15-16 ambassades qui sont à Jérusalem-Ouest à ce moment-là. Le problème, c'est 1980. C'est une loi israélienne, dite loi fondamentale, qui décide que non seulement Jérusalem-Ouest, mais aussi Jérusalem-Est sont la capitale une et indivisible d'Israël. Et ça, évidemment, pour le droit international, c'est impossible. On n'a pas le droit de situer sa capitale à l'extérieur de son territoire. Ça contrevient aux règles de base du droit international. Ça, c'est sur le plan, j'allais dire, juridique et diplomatique. Mais si on prend un petit peu de hauteur, et on est à la fin de cette série d'entretiens, on peut dire aussi que peut-être que cette ville de Jérusalem a une vocation universelle, a depuis toujours été une ville partagée, et que, en fait, aucune entité politique n'a jamais réussi à s'en emparer de façon exclusive. Exclusive, ça veut dire moi et personne d'autre, ou suprémaciste, dirait-on aujourd'hui. Les derniers qui s'y sont essayés, ce sont les croisés, et ça s'est fort mal terminé. Les entités souveraines qui ont réussi, en fait, à régner longtemps sur Jérusalem, ce sont celles qui ont accepté ces différents habitants et qui ont trouvé des modes de régulation pour que chaque communauté se sente un petit peu à son aise. C'est le schéma qui, pour l'instant, ne réussit pas à Jérusalem.
Alors pour conclure, j'aimerais revenir au tout début de votre livre et préciser que le narrateur dans cet ouvrage, c'est un arbre, c'est un olivier. Vous avez abondamment expliqué ce choix, mais j'aimerais que vous le fassiez pour les auditeurs de RCF.
Oui, le narrateur de cette bande dessinée, de cette histoire de Jérusalem en bande dessinée, s'appelle Zeytoun. Zeytoun, ça veut dire olivier en arabe et en hébreu. C'est assez symptomatique déjà, ou on peut l'appeler aussi Olivier ou Olivia, hein, pour un auditeur français. Il a un énorme avantage, c'est qu'il est ni juif, ni chrétien, ni musulman, et pourtant il est vraiment de Jérusalem. Hein. C'est un indigène, il est enraciné dans ce territoire. Il a le temps long pour lui, hein, parce qu'un olivier, c'est un arbre qui peut vivre effectivement plusieurs milliers d'années. Il est très étroitement relié aux traditions religieuses juives, chrétiennes et musulmanes. Et en même temps, il nous permet de raconter la vie quotidienne, les sécheresses, l'eau, le manque d'eau, les récoltes d'olives. Il a un rapport à cette ville qui est un rapport charnel, qui est un rapport sensuel, qui est un rapport très quotidien aussi. Et donc, voilà, notre olivier, ça va être notre narrateur qui sait aussi garder une certaine distance avec les événements d'hier et d'aujourd'hui, aussi parce que c'est un arbre. Donc il est du règne végétal, dirait-on, et il regarde, lui, avec une certaine distance, avec parfois un peu de tristesse, les affrontements des hommes pour ses motifs religieux.
Merci beaucoup, Vincent Lemire, de nous avoir accompagnés dans cette découverte de l'histoire de Jérusalem. Je renvoie nos auditeurs, évidemment, à votre bande dessinée qui s'intitule « Histoire de Jérusalem » que vous avez publiée avec Christophe Gauthier, qui est paru aux éditions Les Arènes. Et puis, je rappelle également que vous êtes le directeur du Centre de recherche français à Jérusalem.
Merci beaucoup.
Merci à vous.